Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Urbania et Pivot. Au programme, Tanadoula, c'est doula de fin de vie. C'est encore difficile de prononcer le mot suicide quand ça compte vraiment. Et comment les cris de Nemaska ont dû s'exiler pour un barrage qui n'a jamais été bâti. Bonne écoute!
Tanadoula, c'est doula de fin de vie. Un texte de Daisy Lecor, paru le 4 mars 2022 dans le magazine Urbania. Nous sommes des gardiens de l'âme. Parmi les images qui défilent et reviennent régulièrement dans ma tête, il y a celle de ma grand-mère bretonne assise chaque matin sur l'immense table de la salle à manger, son journal Ouest France posé face à elle, un stylo bic dans la bouche et cette phrase culte aussi drôle que cynique. « Bon alors, qui est mort ce matin, hein? Daisy, viens voir. Peut-être qu'on connaissait quelqu'un? » La rubrique obsèques faisait partie de ses préférés, après les faits divers, évidemment. Je crois qu'elle trouvait ça divertissant. Ma grand-mère était l'une des rares personnes à parler de la mort aussi facilement, sans réel tabou. Quand il lui arrivait d'avoir mal quelque part ou de se fracturer l'épaule une énième fois, elle était d'une maladresse folle, on l'entendait dire « Ça partira avec la bête, t'inquiète ». Elle prenait aussi un malin plaisir à nous raconter les soirs où, enfant, elle allait garder les morts lors de certaines veillées mortuaires, rite breton d'antan. C'est elle aussi qui, lorsque j'avais 12 ans, m'avait recommandé de lire « La légende de la mort » d'Anatole Le Braz. Je ne pouvais plus fermer l'œil de la nuit. Merci, mamie. Elle avait presque hâte à la mort, parfois. Elle le clamait haut et fort, d'abord pour retrouver son désiré, mon grand-père décédé en Indochine à 27 ans, mais aussi parce que les vies l'épuisaient, tout simplement. Elle répétait que la mort faisait partie de la vie, qu'il fallait s'y préparer et prendre soin de sa fin, tant bien que mal. En y repensant, je me dis que ma grand-mère aurait sûrement été une tanadoula ou doula de fin de vie incroyable. Si cela ne vous dit encore rien, c'est normal. La profession est encore relativement récente. Aux États-Unis, on en parle depuis le début des années 2000. Mais au Québec, il a fallu attendre que Nancy Richard, fondatrice et directrice de l'école Cybelle à Montréal, lance une formation sur mesure. En France, cela commence doucement à faire son chemin, mais de nombreux Français et Françaises font d'ores et déjà partie de la clientèle de Nancy. Mais au fait, c'est quoi une tanadoula? C'est quelqu'un qui épaule une personne en fin de vie, ayant reçu un diagnostic de maladie terminale, ainsi que ses proches, résume simplement Nancy Richard. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une profession médicale. Nos mains sont là pour réconforter et faire des câlins, c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Autre idée reçue à déconstruire. Ce n'est pas parce qu'on a vécu beaucoup de deuil au cours de sa vie qu'on cherche à devenir tanadoula. De la même manière qu'un dentiste n'est pas forcément devenu dentiste parce qu'il a eu beaucoup de caries, lance en riant la directrice de Cybelle, en rappelant les bases de la profession. Aimer les humains, les respecter, ainsi que leurs croyances, et leur faire du bien, avec toute l'empathie du monde. Moi, j'ai voulu être tanadoula pour apprivoiser la mort et en avoir moins peur, rebondit Marie-Josée, une diplômée de l'école désormais à son compte qui a commencé en tant que bénévole en soins palliatifs. Être aux petits soins de celles et ceux qui s'apprêtent à rendre l'âme pour rendre le moment plus paisible et respecter leur dernière volonté à la lettre, telles sont les missions des tanadoulas. Qu'est-ce que la personne veut vraiment? Certains ne sont pas capables d'en parler avec leurs proches pour X raisons, explique Marie-Josée. Il s'agit d'identifier où sont les besoins et comment on peut intervenir. Ensuite, on est comme un chef d'orchestre qui vient amener de la douceur pour que tout se déroule bien. On amène un moment de lumière en fin de vie. Ce n'est pas morbide du tout, au contraire. C'est souvent très beau à voir. « Je le fais parce que la mort fait pleinement partie de la vie », renchérit-elle. « Alors parlons-en. Il faut arrêter d'en faire un tabou. Plus on va en parler, plus on va se l'approprier, moins on en aura peur. Pour moi, la mort, c'est de la vie. Je vis bien plus ma vie depuis que je fais de l'accompagnement fin de vie. » Pour Claude-Hélène aussi, la mort est sacrée, au sens non religieux. J'ai pu accompagner la fin de vie de ma grand-mère maternelle en maison de soins palliatifs et ça a été un moment charnière, raconte celle qui a terminé sa formation de Tanadoula en ligne via une association américaine, la INELDA, INELDA.org. À vrai dire, j'ai été confronté à la mort assez jeune. Plusieurs de mes frères et sœurs sont décédés. Mais je n'ai découvert que récemment que c'était ma vocation, raconte celle qui regrette le manque de douceur et de bienveillance à l'égard des personnes en fin de vie. Pendant que ma grand-mère était inconsciente dans son lit, je lui lisais des livres sur la mort, justement. Ils étaient dans sa bibliothèque. J'avais la conviction profonde que je pouvais faire une différence et surtout qu'elle ressentait quelque chose, qu'elle nous entendait. Il lui fallait de la sérénité. J'avais l'impression de le sentir. Elle est décédée paisiblement et j'ai éprouvé une grande paix et une grande fierté d'avoir pu faire une petite différence dans sa fin de vie, rapporte avec émotion Claude-Hélène, qui aime se décrire comme une gardienne de l'âme. En discutant avec mes interlocutrices, une question me taraude. Pourquoi on ne parle des Tanadoula que maintenant? Dans les années 40, on était plus confronté à la mort que maintenant en raison de la guerre, des maladies, etc. Et puis, il y a eu les baby-boomers qui ont tout fait pour oublier la mort, mais qui se retrouvent maintenant en fin de vie, explique Nancy, qui avoue que la pandémie a également joué un rôle clé pour remettre en lumière cette profession, qui a finalement toujours existé, mais sous d'autres formes et sous d'autres cieux. Beaucoup de gens ont été confrontés à la perte d'un proche et ils ont réalisé que la mort pouvait arriver à tout moment. Ça fait réfléchir et ça remet les choses en perspective, rapporte la Québécoise, dont la formation suscite de plus en plus d'intérêt aux quatre coins de la francophonie. Autre facteur qui explique l'engouement autour de ce nouveau métier, le rejet de la religion, surtout au Québec, et la disparition des rituels associés. On n'a plus vraiment le temps d'être triste non plus, dans cette société qui court après la performance en permanence, me glisse Claude-Hélène au bout du fil. Elle a raison, c'est vrai qu'on a tendance à balayer la mort, à l'oublier, à l'enterrer. C'est pourtant la seule certitude humaine. On ne peut échapper à la mort. La faucheuse finira toujours par passer. On entend souvent dire qu'il faut croquer la vie, profiter de chaque instant. Mais à en croire les Tanadoula, il n'y a pourtant rien de plus doux que la fin de vie, tant que la maladie ne s'invite pas à la fête, évidemment. En soins palliatifs, une dame m'a dit qu'elle savourait plus sa vie en fin de vie. Elle trouve d'ailleurs son mari encore plus attachant qu'avant. Elle le veut avec elle jusqu'au bout et ne veut plus perdre de temps, raconte Marie-Josée, qui aide régulièrement ses patients au seuil de la mort à vider leur sac de 3 R pour partir en paix. Les regrets, les remords, les rancunes. Parce qu'on n'a qu'une vie et qu'une mort. A priori. Tanadoula, c'est doula de fin de vie. Un texte de Daisy Lecor, paru le 4 mars 2022 dans le magazine Urbania. C'est encore difficile de prononcer le mot suicide quand ça compte vraiment. Un texte de Benoît Lelièvre paru le 11 mai 2022 dans le magazine Urbania. On se met beaucoup de pression sur les épaules quand on craint pour la santé d'un ou d'une proche. C'est vraiment difficile de demander à quelqu'un s'il ou elle a des idées suicidaires, me dit ma conjointe, fraîchement sortie d'une formation de 7 heures sur le sujet. Pour illustrer son propos, elle m'explique avoir participé à une mise en situation où elle devait demander à une collègue si elle avait des idées suicidaires. La collègue en question, qui n'a pas d'idées suicidaires du tout dans la vraie vie, avait comme mission de jouer la personne avec des idées noires. Non seulement ça a pris tout son petit change à ma bien-aimée pour poser la maudite question, mais sa collègue n'a même pas été capable de répondre par l'affirmative. « Sarah, as-tu, tu sais, des idées suicidaires? » Sarah grimace, hésite longtemps pour finalement répondre. Non? Je pense pas, en tout cas. » J'ai été abasourdi par l'anecdote. Si deux personnes articulées en bonne santé mentale ont de la difficulté à aborder le sujet dans une situation fictive, imaginez comment ça doit être difficile lorsqu'on doit poser la question à quelqu'un véritablement en détresse. Étant anxieux de nature, comme tout le monde de ma génération, le film de ma propre incapacité à aider une hypothétique amie ayant des idées suicidaires s'est immédiatement mis à jouer dans ma tête. Je suis donc allé consulter un expert pour essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile et surtout comment être utile dans ce genre de situation. En parler sans en parler. Ton histoire ne me surprend pas totalement, affirme d'entrée de jeu Jonathan MacArthur, superviseur clinique des services d'intervention chez Suicide Action Montréal. Malgré les efforts pour briser les tabous, ça demeure un sujet difficile à aborder. On reçoit beaucoup d'appels de personnes qui ont les mêmes inquiétudes, des gens qui veulent soutenir un proche en détresse, mais qui ne savent pas comment. Jonathan m'explique que si c'est encore aussi difficile de parler de suicide en 2022, c'est qu'il n'existe pas de signaux d'alarme universels qui s'appliquent systématiquement à chaque cas. Les proches se mettent beaucoup de pression sur les épaules pour trouver les mots exacts, mais il n'y a pas de méthode d'intervention parfaite. Il y a cependant une limite à ce qu'une personne qui n'est pas professionnellement formée peut faire. Il y a d'autres manières de venir en aide sans se mettre toute cette pression si on se sent capable de le faire, indique Jonathan. Par exemple, s'intéresser à la personne en détresse, l'inviter à faire une activité. Et si on est le moindrement proche, on peut aussi l'aider avec ses tâches ménagères ou l'assister dans ses démarches pour trouver de l'aide. Passer des coups de fil, prendre de l'information, des choses du genre. L'idée étant de faire comprendre à la personne que sa vie a de la valeur pour vous. Une personne en détresse aura souvent beaucoup de difficultés à s'affirmer et à s'exprimer sur le sujet. Alors, c'est important de faire preuve d'accueil et d'ouverture. Que la personne ait des idées suicidaires ou soit simplement dans une mauvaise passe, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Quand la vie de quelqu'un devient trop lourde, on peut s'impliquer et l'aider à la vivre pendant un moment. On souhaite que votre ami en détresse s'ouvrira alors à vous, mais si ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas à bout de solution. Quand dois-je sonner l'alarme? C'est très noble de vouloir apporter son soutien à un ou une proche en détresse, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a le pressentiment que le pire pourrait se produire? C'est quand le bon moment pour poser la question difficile? Selon Jonathan, ce n'est pas nécessairement à nous de faire ça. Si on pense qu'un proche souhaite s'enlever la vie de façon imminente, il faut appeler le 911, m'explique-t-il en choisissant bien chacun de ces mots. Les policiers et les services de secours vont évaluer l'urgence de la situation et agir en conséquence. Ils sont formés pour ça. Quand on n'est pas certain, on peut référer la personne au centre de prévention du suicide. Je le répète, il ne faut pas se mettre toute la pression sur les épaules. Il y a des services pour venir en aide aux gens avec des idées suicidaires. On en est un. Même chose si la personne pour laquelle on s'inquiète nous en parle ouvertement. Jonathan m'explique qu'il persiste encore aujourd'hui un mythe selon lequel les personnes qui parlent de suicide ne passeront pas à l'acte, qu'elles font ça pour avoir de l'attention. C'est là une idée extrêmement dangereuse. Si la personne ne veut pas s'entretenir directement au téléphone avec quelqu'un, Suicide Action a implémenté depuis quelques années un outil de clavardage pour offrir un point de contact différent. Pour certaines personnes, c'est plus facile de s'exprimer par écrit. Jonathan me raconte que les interventions sont en hausse chez Suicide Action Montréal depuis 2018. Dans la dernière année seulement, on a eu une augmentation d'environ 24%, me dit-il. La pandémie et l'isolement ont assurément joué un rôle dans cette hausse, mais celle-ci pourrait aussi être reliée au fait que les gens sont de plus en plus à l'aise de parler de leur détresse et d'aller chercher de l'aide. Jonathan voit d'ailleurs le futur d'un bon œil. « J'ose croire qu'on a progressé. Regarde juste le partenariat avec la STM. On affiche dans le métro et en échange, on forme leur personnel. On rejoint de plus en plus de gens. Le dialogue s'ouvre de plus en plus, même si ce n'est pas toujours directement. L'important dans cette histoire, c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul. Si vous avez des idées noires ou si vous vous inquiétez pour un ou une proche, il existe des services pour ça. Si vous vous sentez concerné par cet article, votre premier pas est d'appeler au 1-866-APPEL 277-3553 pour aller chercher de l'aide. C'était « C'est encore difficile de prononcer le mot suicide quand ça compte vraiment », un texte de Benoît Lelièvre paru le 11 mai 2022 dans le magazine Urbania.
Comment les cris de Nemaska ont dû s'exiler pour un barrage qui n'a jamais été bâti? Un texte de Denis Laure, paru le 30 novembre 2022 dans le magazine Pivot. Un nouveau livre raconte comment les cris de Nemaska ont été chassés de chez eux dans les années 1970 par un projet hydroélectrique qui n'a finalement jamais vu le jour. En 1970, la Première Nation de Nemaska aurait été forcée à un exil de 7 ans à cause d'un projet d'Hydro-Québec qui nie la chose. George Wapashi et Susan Marshall racontent les péripéties de cet épisode traumatique et triste dans « Going Home, The Untold Story of the Nemaska Iinush ». Le projet hydroélectrique Notaway Broadback Rupert aurait obligé la population de Nemaska à quitter son site originel sur le bord du lac Nemaska, site qui devait être inondé, mais qui ne le sera finalement jamais, puisque le projet sera abandonné. Voilà pour la version de la Première Nation de Nemaska. Celle d'Hydro-Québec est très différente. Les Cris ont décidé de quitter le site appelé Old Nemaska parce que le poste de la baie d'Hudson a fermé. Et donc, ils ne pouvaient plus s'approvisionner, affirme un porte-parole de la compagnie d'État. Le fil des événements témoigne que la décision d'aller de l'avant avec le projet hydroélectrique de la Grande Rivière, et non le projet Notaway Broadback Rupert, a été prise en 1972 par le gouvernement du Québec. Ellipse. Du côté d'Hydro-Québec, nous n'avons jamais obligé ou demandé aux Cris de Nemaska de déménager. Mais il se peut que la perception des événements diffère selon les versions de l'histoire qui leur ont été rapportées, et nous comprenons ce fait. Dispersé. À l'époque du départ, le co-auteur du livre, Georges Wapashi, était dans le sud, où il étudiait et travaillait l'été. « J'étais prêt à retourner à Nemaska », dit l'ancien chef. « Un jour, mon père m'a écrit une lettre. « Ne reviens pas à Nemaska, ce n'est plus là. » Ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux Nemaska par rapport au site actuel de la communauté était alors un endroit isolé, sans route. Quand Hydro-Québec est venu, on ne nous a pas avertis, avance Georges Wapashi. On voyait des gens qui faisaient de la recherche. On ne savait pas ce qu'ils faisaient. Ils disaient « Il y a une inondation qui s'en vient. Vous êtes mieux de vous en aller. » Il n'y avait pas de confrontation dans ce temps-là. On ne savait pas qu'on avait des droits. On ne savait pas vers qui se tourner, à qui demander de l'aide. On voulait rester là. Mais ils avaient fermé le magasin. Ellipse. Alors on a dû partir. La population a quitté le vieux Nemaska en avion, laissant la plupart de ses biens, dont ses bateaux, derrière elle. Nous étions 180 personnes, rappelle Georges Wapashi, qui a occupé différents postes à Nemaska et dans Eyu-Istchi. Ce sont 113 qui ont été à Waskaganish, 67 à Mistissini. Beaucoup de gens y avaient des parents. Ils sont restés là durant 7 ans. Ils étaient comme des étrangers. Mais ils nous ont donné une place à rester. Ils nous ont donné du bois pour construire notre camp. À Waskaganish, ils nous ont installés dans une fondrière de mousse. Ellipse. Il y a un temps où on n'était pas très bien traités. Prologue au retour. Le retour de la communauté de Nemaska sera plus tard abordé en 1975 dans la Convention de la baie James et du Nord québécois. L'entente prévoit que des terres de catégorie 1 et 2 seront réservées dans le secteur de Nemiskaou si au moins 90 membres de la bande s'engagent à y retourner. Ils doivent le faire dans un délai de 5 ans. Autrement, les terres seront réparties entre Waskaganish et Mistissini en fonction du nombre de membres de la Première Nation de Nemaska y vivant. Le texte de la Convention, dont le père de Georges, Bertie Wapashi, était signataire, ne fait état d'aucun dédommagement pour l'exil forcé, d'aucun financement pour la relocalisation. Le bord du lac Champion, à environ 60 km du vieux Nemaska, fut sélectionné pour celle-ci. Les aînés ont choisi cette place, explique M. Wapashi. C'est un gros lac. C'est très similaire au vieux Nemaska. Il y a 2 collines. Relocalisation ardue. Mais s'y installer fut complexe et fastidieux, notamment du côté du ministère des Affaires indiennes. Selon Georges Wapashi, qui était alors coordonnateur de la relocalisation, les exilés de Nemaska disaient qu'ils allaient redéménager s'il y avait une maison, et les Affaires indiennes disaient qu'ils donneraient du financement quand les gens seraient déménagés. C'était tout un dilemme. Ellipse. C'était presque conçu pour être un échec, analyse rétrospectivement M. Wapashi. Les membres de la Première Nation ont dû apporter leur matériel et leurs biens par l'eau, parfois pendant l'hiver. Ensuite, ils ont dû s'accommoder de l'hiver, vivre un temps sans route, sans électricité et sans eau courante, avec des toilettes dehors. Nemaska est aujourd'hui le siège social du Grand Conseil des Cris. Un livre commencé en 2007. L'écriture de Going Home a commencé il y a 15 ans, précise Georges Wapashi, qui a signé la préface, assumé la coordination du projet et recruté Susan Marshall pour l'écriture. Je lui ai dit que je voulais faire une histoire sur Nemaska, Ellipse, parce qu'on n'avait jamais vraiment raconté ce qui nous était arrivé. Il a fallu faire beaucoup de recherches. Il y a beaucoup d'entrevues avec des gens dans le livre. C'est un livre du peuple. L'ouvrage compte 300 photographies et pèse 4,5 livres, révèle M. Wapashi avec humour. Le livre est lancé, ce n'est pas un hasard, le 11 novembre, jour anniversaire de la Convention de l'abbé James et du Nord québécois. Le gouvernement pourrait-il être poursuivi pour cet exode? Pour l'instant, la nation crie veut se donner le temps et donner le temps à ses membres de se raconter sa propre histoire, de pouvoir la lire et la vivre tous ensemble, avant de décider quoi que ce soit, dit l'officière aux communications de la Nation Crie de Nemaska, Laurence Gagnon. Going Home, The Untold Story of the Nemaska Iinush, Susan Marshall avec Georges Wapashi, Première Nation de Nemaska, 2022, 600 pages. Comment les cris de Nemaska ont dû s'exiler pour un barrage qui n'a jamais été bâti, un texte de Denis Laure paru le 30 novembre 2022 dans le magazine Pivot.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.fusevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.